Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch. Je suis Patrick Béja et il est Johan. Comment ça va? Comment tu es en forme? Dis-moi, Johan.
Eh ben, ça va super bien parce que parce qu'en ce moment c'est le 3 et c'est du coup la période la plus magnifique au monde pour moi et je pense pour plein de gens. En plus de le 3, il y a Loki qui débarque au milieu de la semaine.
Depuis deux jours, voilà. On est de retour avec Loki, la nouvelle série de Marvel. On espérait pouvoir faire des petits épisodes de temps en temps entre les deux séries. Il se trouve que mon deuxième enfant a été un petit peu plus compliqué que prévu. Mais on est quand même là, malgré l'adversité, la difficulté, notre emploi du temps surchargé avec les enfants et le 3. Et bien quand même pour Loki, on n'y manque pas, même si, bien sûr, Johan préférerait être avec ses amis en train de se regarder le trailer de Elden Ring 42 000 fois d'affilée en bavant, il a pris un petit moment pour être avec nous. Et donc, c'est pour vous parler de cette série Loki, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce podcast, on passe en revue les épisodes des séries Marvel et les films quand ils reviendront aussi, et puis peut-être des petites choses à côté également, et pas forcément que Marvel, mais là on se lance donc dans la série Loki qui va avoir, tu sais combien d'épisodes
je crois que c'est 6.
C'est assez, c'est des gros épisodes peut-être, bon on verra, mais on va arriver en fait, on va se télescoper avec le film Black Widow du coup qui sort dans un petit mois et donc on va devoir peut-être faire deux épisodes en une semaine. Vous aurez peut-être remarqué aussi qu'on est là vendredi au lieu de lundi, alors je sais pas si ça va pouvoir continuer, mais pour le moment vu que la série est diffusée le mercredi maintenant au lieu du vendredi, on s'est dit qu'on allait essayer d'être là avant la fin du week-end. Donc voilà, Loki épisode 1, on va le passer en revue et on se lance tout de suite. C'est... Alors, on se disait avant d'enregistrer, on n'a pas forcément besoin de faire scène par scène sur cet épisode, parce que c'est vrai que l'épisode entier, bon, il y a différents éléments, mais c'est un petit peu une étude de caractère, de personnalité, de psychologie de Loki, et il n'y a quasiment pas d'action en fait, il y a zéro action. Et moi, j'ai vraiment aimé. Je ne vais pas dire j'ai adoré, mais j'ai vraiment aimé. Comme ça, dans l'ensemble, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode de la série du dieu du... Comment on dit The God of Mischief? Le dieu de la malice? Le dieu des...
Ouais, c'est ça, de la malice.
Ouais, de la malice, peut-être. Alors, dis-moi tout.
Alors, moi, pour le coup, j'ai vraiment adoré. Effectivement, ça reste un épisode d'exposition
pure. Tu sais
pure,
quoi
hein, pour le coup.
Je t'interromps. Et je vais suivre ton exemple, je vais pas bouder mon plaisir, j'ai adoré aussi, j'ai trouvé que c'était très bien, t'as raison, il n'y a pas besoin de se retenir tout le temps, j'ai adoré, c'était super bien, vas-y, continue.
Ah ouais, comme tu disais, c'est de la pure exposition. Alors il y a deux choses principales qui sont exposées, donc il y a effectivement Loki, et Loki c'est intéressant parce que on le reprend finalement, c'est un ancien Loki quoi, c'est pas le Loki qu'on a connu ces dernières années, c'était celui du premier Avenger, donc qui était purement méchant.
Il avait été dans Thor, le premier, où il n'avait pas un énorme rôle. Enfin oui, c'était le méchant, mais bon, voilà. Et dans Avengers, où il était également le méchant, mais il était le même personnage, il n'avait pas du tout évolué.
Ouais. Et c'était justement la période de Loki où il était manichéen, quoi. Il était montré comme méchant de film, quoi. Tu vois, vraiment, Il sourit en tuant des gens, etc. Et du coup, il y avait un travail à faire pour rendre ce personnage-là, on va dire, acceptable en tant que personnage protagoniste principal d'une série, puisque on va devoir s'attacher à ce personnage-là. Et donc, il y avait un travail de transformation à faire pour en faire un personnage, on va dire, potable pour ce type d'exercice. Et je trouvais que ça marche super bien ce qu'ils ont fait, quoi. Il est complètement, entre guillemets, ridiculisé, parce que du coup, lui se voit comme un roi, comme un dieu, et tout à coup, bah là, il perd tous ses pouvoirs. il se fait maltraiter par l'administration de la TVA. C'est quelque chose qu'on aime bien dans le MCU. Il se fait souvent quand même martyriser ce personnage, et donc là, à nouveau, bah, il va subir ce traitement un peu accéléré. En plus de quoi, il va voir il va voir le film, il va se binge-watcher toutes ces scènes du MCU. Et du coup, il va arriver à une version de Loki transformée qui n'est plus du coup le Loki du début de l'épisode, mais pas non plus le Loki que nous on connaît à la fin d'Endgame, puisque du coup il a vu ce qui allait lui arriver. Et du coup, bah sa position finale, c'est de se retrouver coincé parce que il est entre guillemets obligé de suivre ce que la TVA lui dicte, parce que voilà, il est complètement impuissant. Et il n'a pas trop le choix. Et en même temps, il n'a pas envie spécialement de retourner, j'imagine, dans sa timeline où il voit bien qu'il est obligé d'y mourir, puisqu'il ne pourra, en ayant vu ce qui se passe, il ne pourra de toute façon rien changer sans s'attirer les foudres de la bureaucratie.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y retourner. De toute façon, c'est ce qu'ils disent. Ça a créé une nouvelle timeline. Et donc, il faut le resetter. Ça veut dire, l'annuler, quoi. Le supprimer, ou alors parce que l'autre timeline existe aussi, la timeline sacrée existe tout de même, et là c'est la création d'une nouvelle timeline. Mais revenons effectivement à Loki. C'est un personnage qui est hyper intéressant. T'as raison qu'il pouvait pas juste le prendre tel quel et puis ne rien y changer, parce que il fallait raccrocher les wagons, même si nous on a un passif avec le personnage qui est beaucoup plus profond. Le personnage n'est pas celui-là. Il pouvait pas juste dire, comme tu le dis, le personnage à l'origine est intéressant, mais intéressant comme un méchant un petit peu caricatural. Enfin, un petit peu, je trouve qu'il était quand même le meilleur méchant des Marvel, même si la barre n'était pas placée très haute à l'époque encore. Mais il fallait lui donner un petit peu plus de profondeur, et ils le font super bien. Et en même temps, effectivement, moi je me demandais s'ils allaient, je pensais qu'ils allaient lui montrer des trucs de son passé, je me demandais s'ils allaient lui montrer son futur. Et je trouve que c'est une excellente décision au niveau artistique, parce que du coup, maintenant, c'est réglé. On va pas se demander, oh, est-ce qu'il va savoir qu'il va mourir un jour? Est-ce que, tu vois, il y a pas cette sorte d'épée de Damoclès qui pend, qui est un petit peu scénaristiquement pas facile, mais qui est un peu déjà vu, je trouve. Ou pas, même pas déjà vu, je trouve que ça aurait été lourd, ça aurait alourdi le propos. Et là, ils l'ont montré, il sait, et donc, il sait, il comprend que... tel qu'il est au moment où on le retrouve, ce futur-là ne lui convient pas du tout, ce qui est ironique, parce que le Loki du futur, même s'il n'est pas content d'être tué par Thanos, on sait bien qu'il est devenu beaucoup plus noble et qu'il accepte de se sacrifier, en fait, pour essayer quelque chose. Et le Loki tel qu'on l'a dans Loki, il a pas du tout envie de se sacrifier, quoi. Il voit que ça mène à rien, il comprend l'émotion, on voit l'émotion d'ailleurs avec un jeu d'acteur assez incroyable de Tom Hiddleston quand il regarde la vidéo de son futur, et quand il se rend compte de tout ce qui se passe, il a à la fois l'émotion d'entendre son père l'appeler mon fils, il a l'émotion de sa relation avec Thor, tout ce qu'il n'a pas eu, et on pense qu'il se rend compte aussi ce qu'il ne pourra pas avoir, parce que là, c'est terminé, quoi. C'est comme quand tu... Je sais pas, il y a un truc un peu schrödingerien, c'est quand tu regardes un truc, ça n'existe plus. Bon, c'est pas tout à fait ça, mais tu vois, là, il l'a vu, et tu peux plus, peut-être que l'observation du phénomène collapser l'information comme le chat, ou alors que, comme dans Groundhog Day, tu peux pas reproduire le truc. Si tu l'as vu, ensuite, si t'essayes de le refaire, et puis ça fait pas... C'est pas ce qu'il veut, donc... Bref, ce que j'essaye de dire, c'est que du coup, il est obligé de prendre une troisième voie. C'est pas ce qu'il était au moment où on le retrouve, et c'est pas ce qu'il serait devenu dans la timeline sacrée, et ça laisse une liberté totale à ce Loki d'être un autre personnages, ce qui est extrêmement bien amené, en fait, et de manière très subtile, parce que c'est, ça semble complètement naturel dans la série. Je trouve que... Et en plus de ça, l'exploration psychologique que fait Mobius de Loki, du personnage, et c'est à la fois intelligent, et c'est tout ce que pensent les spectateurs, ça aussi Marvel le fait souvent, il y a un petit peu de recul, un petit peu de... Comment dire, c'est pas du cassage du quatrième mur, mais on est quand même dans l'observation. Ce que dit Mobius, c'est un peu la voix des spectateurs, et il dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu prends du plaisir à donner de la souffrance? Et lui dit, mais non, pas du tout, je fais ce qui est nécessaire, et puis il explore ce qu'il fait, et qui il est, et ça vient encore une fois au cœur de la qualité de ce qui fait la force des séries Marvel, c'est les personnages. Et le personnage devient émouvant, attachant, on le comprend, on veut le protéger un petit peu, on a de la peine pour lui. C'est hyper, hyper bien ficelé, je trouve, toute cette partie sur Loki. J'ai du mal à imaginer comment ils auraient pu mieux mener cette réintroduction du personnage, au final.
Ouais, et surtout que ça s'accompagne du coup de la découverte de cet univers-là, hein, donc du coup la TVA. Et du coup,
Combien tu crois qu'il va y avoir de blagues sur la TVA et la TVA dans le net français?
Net français, je sais pas. Il y en a déjà eu, je pense.
Je pense qu'il va y en avoir trop. Voilà, c'est combien il va y en avoir.
Mais du coup, voilà, Loki ignore tout de cet endroit-là et nous, pareil, on va voilà découvrir ça avec lui. Et c'est voilà, pour moi ça c'est le gros point fort. Bon, c'était déjà bien ce qu'on disait sur Loki, mais de cet épisode, c'est toute la construction de ce monde-là. Je le trouve vraiment fabuleux. Pour moi, ça en fait vraiment le premier épisode là, parmi toutes les séries qu'on a commencé à regarder, c'est vraiment mon préféré, hein, parce que du coup, on m'introduit à un tout nouveau monde. Au début, très claustrophobe, parce que on est dans les bureaux, on passe de salle en salle. Les guichets, les formulaires, etc. Et puis il y a ce moment où ils arrivent du coup sur un couloir, un balcon, et on voit toute l'étendue du coup de cet endroit-là. On ne sait pas vraiment quand et où on est. On voit toute cette étendue-là et c'est vraiment gigantesque et c'est surtout super beau, quoi. La ville, je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, ça a été un moment assez fort pour moi dans cet épisode-là.
Ouais, je t'avoue la fatigue n'aidant pas, j'étais un petit peu les yeux du ciel. Mais oui, je dirais mon impression aussi, mais la sensation de dépaysement et d'émerveillement est clairement une hyper réussie dans ce premier épisode, on est d'accord.
Et du coup, toujours sur cette construction du monde, du coup, il profite justement de cette entrée d'un interpellé, on va dire, dans cette bureaucratie-là, avec du coup, tu sais, tous les trucs explicatifs, quoi, pour diriger les personnes, où est-ce qu'il faut aller, remplissez ceci, regardez cette vidéo qui va vous expliquer pourquoi vous êtes là. Et du coup, on a une petite vidéo animée qui explique grosso modo le point de départ de la TVA, donc où. Cette explication-là, on avait confirmation qu'il y avait, enfin, on avait deux confirmations, à la fois qu'il n'y avait qu'une seule timeline, donc du coup, c'est linéaire, ouais. Du point du temps, mais qu'il y a bien plusieurs univers, et donc ça, c'est une confirmation importante quand on sait ce qui arrive.
Les lignes temporelles et les univers parallèles, je pense qu'ils les associent un petit peu, c'est un peu la même chose, c'est interchangeable, je crois. Dans leur description, mais bon, je sais pas, on verra dans les mois et les années à venir, parce qu'effectivement, on va pas trop spéculer sur la suite, on le fera tout à l'heure, mais il est à peu près certain qu'au bout du compte, l'univers Marvel va se retrouver avec plusieurs timelines parallèles, on peut imaginer. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait eu un conflit entre les timelines avant, ça peut aussi amener des choses pour, encore une fois, étendre l'univers et introduire d'autres choses, pas que les propriétés Fox ou Sony ou ce genre de choses, mais aussi des personnages qui sont plus cosmiques et multiverseux que ce qu'on a ici, et ça étend le niveau de puissance de l'univers Marvel de manière très... intelligente. Mais oui, vas-y, donc.
Et du coup, Et du coup, tout ça, c'est chapeauté par du coup trois entités. Alors en anglais, c'est les timekeepers. Donc je suppose que c'est les gardiens du temps en français. C'est eux qui ont créé du coup la TVA et qui ont créé aussi tous les gens qui travaillent à la TVA d'ailleurs. Et du coup, voilà, on a l'introduction de ces grands personnages-là. Alors après, est-ce que tout ce qui est dit dans la vidéo est vrai? Je pense que ce serait intéressant d'en douter. Hein, moi, dans ce genre de bureaucratie, quand tu as une vidéo un peu style propagande comme ça, on peut au moins essayer de mettre un peu un grain de sel.
Mais non, bon, et puis en plus, ça a l'air quand même, c'est clairement une imagerie totalitaire. Hein. On est limite dans 1984 ou dans City 17. Oui, il n'est pas du tout impossible que cette gentille horloge, comment elle s'appelle, Miss Minute, raconte pas exactement la vérité de ce qui s'est passé. Ouais.
Donc ça c'était pour l'univers. Je pense que j'ai fait le tour. Moi je trouve ça. En plus, ça il faut en parler. C'est que du coup dans cet endroit-là, la magie ne fonctionne pas. Hein, c'est pour ça que Loki est impuissant. Et il y a cette scène que j'ai trouvé vraiment incroyable où du coup Loki s'est enfui. Enfin, il est en train de chercher à s'enfuir dans ces bureaux-là et il rencontre quelqu'un qui trimballe un espèce de plateau. Avec des petites choses inutiles dessus. Et les choses inutiles en question, c'est des pierres d'infini. Donc en triple, en quadruple, un peu partout. Et Loki est choqué en voyant ça. Effectivement, elles ne font rien. Et puis le mec rigole en disant « Oh, ça, c'est des presse-papiers. On en a plein. »
C'est plus même qu'il est choqué. C'est que c'est à ce moment qu'enfin, il réalise que tout ça, non seulement est vrai, mais qu'en plus... C'est un pouvoir, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, hein, à ce moment, pour tout le monde, nous y compris, les pierres de l'infini, c'est pas juste des trucs très puissants, c'est le plus grand, c'est le pouvoir infini. Littéralement, ça permet de réécrire la réalité comme tu le souhaites. C'est le truc le plus puissant qu'on puisse imaginer. Et donc pour Loki, surtout à un moment où dans l'histoire de sa vie, les pierres de l'infini, c'est inatteignable, c'est le truc des mythes, quoi. Et il en a eu, il s'en rend même pas compte, mais il en a eu un entre les mains et ils en ont entendu un petit peu parler. Et là, le pouvoir de la TVA est tellement immense que le pouvoir le plus infini qu'on puisse imaginer dans son imagination, eh ben, il est rendu totalement stérile. Et donc là, il se dit, mais ah oui, donc, il y a vraiment une puissance, et je pense que ça parle à son complexe de dieu-roi, il se dit, alors il faut que je réussisse à trouver quelque chose, à voler là-dedans, tu vois, il y a une puissance à acquérir dans toute cette histoire. Donc bon, je pense qu'il y a effectivement un aspect, je me rends compte que ça rigole pas, quoi, et j'irais même jusqu'à dire que en fait, tout ça, en même temps que la mise en contexte pour Loki, je trouve que c'est incroyablement habile de la part de Marvel pour faire un truc qu'ils font régulièrement dans les comics et auquel on fait référence régulièrement aussi ici, c'est ces fantasmes de fans de soit qui est le plus fort, qui est le moins fort, qui est le machin. Il y a plein de personnages dans l'univers de Marvel qui sont les plus forts de l'univers. Et vraiment, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit le plus fort de l'univers, encore plus fort que le plus fort de l'univers d'avant, eh ben, il est vraiment le plus fort de l'univers. On peut penser à des personnages comme, je sais pas, Galactus. Enfin, tu peux pas imaginer plus fort. Mais après, tu as les entités cosmiques, tu as comment ils s'appellent, le Living Tribunal et les trucs comme ça. Enfin, il y a toujours. Et puis, tu peux avoir le Beyonder, et puis The One Above All, et puis, enfin, il y en a plein. Qui peuvent qui peuvent systématiquement remettre, parce que, pardon, je me perds un peu, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important narrativement pour les enjeux. Parce que quand tu arrives à un niveau où Thanos peut réécrire la réalité avec ses pierres de l'infini, après, il n'y a plus d'enjeux. Il n'y a plus rien qui peut être plus important que ça. Donc, le fait d'annuler la puissance des pierres de l'infini, d'une certaine manière, c'est hyper important et hyper bien fait de la part de Marvel, et ils le font encore une fois régulièrement, pour réagrandir, dézoomer sur l'univers qu'ils nous ont présenté. Et pour remettre des enjeux dans le truc. Parce que là, on se rend compte que la TVA, c'est hyper... Alors peut-être qu'à la fin de la série, il va casser la TVA et ça sera juste un outil narratif qui va plus avoir d'importance pour après. Mais tout à coup, ça remet les enjeux à un autre niveau. Et c'était essentiel parce que, encore une fois, on a géré le plus gros problème qui puisse arriver avec Endgame. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ? Et bien là, Marvel nous montre qu'il y a toujours un après. Il y a toujours un truc que tu peux faire qui est encore plus fort, encore plus grand. Et c'est marrant, je dis ça et ça me fait penser à Dragon Ball et tout, et tous les animés shonen où il y a toujours un méchant plus méchant, mais c'est fait de manière plus world building que juste présenter un méchant qui est encore plus méchant, et je trouve que ça fonctionne, c'est un petit peu plus cohérent dans toute l'incohérence de ce type d'histoire. Donc c'était un petit peu inattendu, parce que moi, je vais être honnête, je connaissais pas la TVA dans les comics, je crois que c'est pas un gros morceau de Marvel. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, la manière dont ils l'ont fait. Ça amène plein de mystères, ça amène plein de possibilités. Et c'est, d'une manière générale, nécessaire et bien fait pour la suite du MCU. Donc j'étais très, très content de cet aspect. Et effectivement, tout l'aspect esthétique, ambiance... comment dire ?
La musique, moi, je la trouve alors fabuleuse ouais. dans la TVA. Donc il y a une espèce de c'est une musique assez mélancolique avec un theremin. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est comme instrument, le theremin. Ouais. Juste pour décrire un peu pour les auditeurs, c'est un instrument électronique qui se joue sans le toucher. Donc il y a des antennes avec des ondes radio, et en plaçant les mains entre les antennes, ça fait des sons. Un peu étrange, qui rappelle un peu en général, ça fait penser aux aliens ou ce genre de choses-là. Je vous laisserai chercher, écouter. Mais du coup, il y a des petites notes comme ça, assez subtiles, de theremin qui rentrent et qui remplacent parfois un violon. Moi, je la réécoute là depuis quelques jours et j'en suis vraiment fou. Et ça participe à toute cette ambiance, à la fois l'ambiance de la TVA qui est un endroit incroyable et au-delà de l'imagination, et en même temps la mélancolie ou la tristesse que va ressentir Loki en comprenant à quel point il n'est rien dans cet univers, quoi, parce que finalement c'est de ça ouais. dont il est question. Quoi.
C'est complètement ça, oui. C'est ça qui le fait enfin tomber de son piédestal, et il s'assoit, il commence à penser à qui il est, mais...
Et donc, pour embrayer... lui, il est sorti de son procès par Mobius, qui a besoin de lui, en fait, du coup, pour pourchasser un autre déviant. Donc c'est son travail à Mobius. Mobius, il chasse les déviants très dangereux. D'ailleurs, le qui lui dit dangereux comme moi, il fait ouf, toi t'es rien.
mais il dit, pour moi aussi, je suis dangereux.
Pour le coup, le déviant qu'il va chercher, c'est effectivement un Loki. C'est ce qu'on apprend à la fin. Un Loki qui a apparemment, donc moi ce que j'ai compris, c'est qu'il provoque je sais plus comment ils appellent ça, mais des déviations de timeline pour obliger les Minutemen à venir réparer les timelines. Et quand ils arrivent, ils les piègent, ils les tuent et ils volent leur espèce de petite machine qui leur permet de
bomba timeline.
C'est ça, qui leur permet de réinitialiser la timeline. Voilà, on ne sait pas ce qu'il va en faire.
Qu'est-ce qui se passe si tu fais exploser plein de bombes à timeline dans la timeline sacrée ?
Ou à la TVA, je ne sais pas.
Ou à la TVA, peut-être. Oui, peut-être. Ouais. Moi, je trouve qu'un aspect qu'on n'a pas évoqué, qui est intégral à la relation entre Mobius et Loki, c'est l'aspect humoristique. Vraiment, c'est une comédie. Il y a en plus, en fait, on était en train de le regarder avec ma femme, et ma femme m'a dit « Ah, ça me fait penser au guide du Routard Galactique ». Et c'est vrai que c'est un petit peu ce genre d'ambiance.
Il y a une session bureaucratique dans le guide du Routard Intergalactique, et on retrouve vraiment, c'est un peu des clichés. D'ailleurs, ça m'a aussi fait penser à. Je ne sais pas si tu avais vu la série sur Netflix, Umbrella Academy.
Oui, tout à fait. Les Américains ont un truc avec. avec l'administration de ce type-là, c'est exactement, ça. C'est leur image.
C'est les administrations des années 50-60, à chaque fois, avec les secrétaires, les machines à écrire, tout ça. Ouais. Enfin, c'est...
Je crois que tu as une amie qui est en train de venir te dire bonjour.
Ouais, elle a ouvert la porte. Elle sait ouvrir les portes maintenant, je suis plus tranquille.
Tu n'es plus en sécurité nulle part. Ouais, et effectivement, cet aspect humour, je trouve, est hyper important parce qu'il y a à la fois l'aspect émerveillement, pas science-fiction, mais genre anticipation des années 80, et on se rend compte que on va avoir droit, je crois, à un buddy movie ou une buddy série, limite cop movie. On va avoir un film de flic où c'est deux potes flics qui sont le gentil, le méchant, qui s'aiment pas au début et puis qui vont finir par bien s'aimer et qui vont devoir enquêter, alors qu'ils vont devoir enquêter sur ce déviant, ce variant. Et les déviants, c'est un autre truc dans l'histoire de Marvel. Donc, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en français, mais j'imagine que c'est les variants.
Les variants, je pense. Ça, ouais. Le variant anglais, c'est Tom Hiddleston maintenant, du coup. Je ne sais pas s'il est anglais.
Et du coup, effectivement, on a beaucoup de potentiel avec cette histoire. Ouais. Et je ne sais pas ce qui va se passer dans les épisodes à venir, mais on sait que dans les comics, Loki, on en a eu plusieurs incarnations, et il n'est pas impossible qu'on en voit plusieurs. Et puis surtout, cette histoire de « c'est toi qu'on est en train de chasser », c'est un vieux Loki qu'on va peut-être voir, mais qu'est-ce qu'il fait, d'où il sort, c'est encore un mystère hyper intriguant. Et j'ai adoré le fait que, dans la scène de l'église, l'enfant montre le diable quand il dit c'est qui est-ce qui a fait ça. Et j'ai tout de suite évidemment pensé à tous les youtubeurs spéculaient sur Mephisto.
Alors j'aimerais juste revenir sur cette scène là parce que il y a un petit contexte en fait derrière cette scène. C'est que cette scène était dans la bande annonce, alors je sais pas si c'est la première ou la deuxième bande annonce de Loki,
la deuxième,
qui est sortie en fait ouais, voilà, ça doit être la deuxième, qui est sortie à peu près en même temps que le tout début de WandaVision, en fait. Donc, en fait, on avait cette image, effectivement, de Mobius à côté d'un vitrail avec le diable, et ça faisait totalement partie, en fait, de la spéculation générale, comme quoi Mephisto pourrait être un méchant de la phase, en fait, complète, tu vois. Et du coup, moi je le savais hein, qu'il allait y avoir cette scène, du coup, et j'étais assez content parce qu'avec la sortie de la série, en début de semaine, là, les influenceurs avaient pu voir les épisodes en avant-première, et il y a eu des interviews, et ils ont posé la question, alors je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui a pensé à poser la question au réalisateur, de savoir, du coup, ce vitrail-là, par rapport à Mephisto, voilà, qu'est-ce qui se passe concrètement. Et il expliquait qu'il était... c'est une coïncidence, hein. C'est-à-dire que pour lui, ce vitrail représente effectivement Loki, hein. Il y a les cornes, pas mal d'attributs spécifiques à Loki, et ils étaient un petit peu... ça les avait fait vachement marrer de voir le truc s'intégrer, parce que du coup, eux, donc le réalisateur de Loki n'a pas vu WandaVision, c'est des projets séparés, etc. Et du coup, ils étaient super... à la fois content, mais en même temps, dans quoi on s'embarque.
c'est assez comique, quoi.
Donc, ce n'est pas du tout Mephisto.
Effectivement. Bon, du coup, pour la conclusion, on peut se demander un petit peu, effectivement, ce qui va se passer pour la suite. Moi, j'imagine qu'on va voir peut-être d'autres versions de Loki, puisqu'on en a au moins un, et que, pour la petite histoire, il y avait une toute petite image sur laquelle on voit que le genre de Loki est classé comme fluide, ce qui a provoqué beaucoup de discussions sur le net, généralement positives, mais aussi un petit peu négatives, parce que dans les comics et dans l'histoire de Loki, des moments où il apparaît sous différentes formes, là encore c'est un petit peu comme le diable, et il y a une Lady Loki. Et du coup, l'histoire du gender fluide, c'est perverti parce que ça ne veut pas dire que tu apparais comme une femme si tu... Bon, bref. Ouais. Donc, mais du coup, il n'est pas impossible qu'on ait une Lady Loki, qu'on ait plein de versions.
Et d'ailleurs, dans la mythologie nordique, Loki est, je crois, à la fois masculin et et féminin, puisqu'il est, il est la mère de, du fameux serpent nordique, là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le gros serpent et le loup, Fenrir, etc. Donc il, voilà, il y a déjà cette notion-là à la genèse de ce personnage-là dans la mythologie. C'est à la fois, on va dire, pas surprenant, et c'est intéressant qu'il l'exploite. Donc j'espère que ça sera exploité effectivement dans les différentes versions. Les différentes versions, on verra.
Je pense que quand tu dis on va faire plusieurs versions du personnage, il y a des trucs assez classiques qui te viennent à l'esprit. Tu peux faire un vieux, un jeune, un du sexe opposé, et puis je sais pas, ça en fait trois, il en reste encore deux. Mais oui. Donc, où tu vois la série aller en conclusion ? Est-ce que tu veux spéculer un petit peu ?
Moi, j'avais un peu la même analyse que toi ou ta femme, je ne sais plus. Mais on est vraiment dans l'archétype du policier où on a un flic, du coup, ou quelqu'un du FBI, et en collaboration avec un consultant. Donc, qui est extérieur, on va dire, au process interne et au et à la loi, et qui va aider, donc comme Castle, où t'as un
auteur, c'est Castle,
qui
c'est Bones, c'est FBI, tout, c'est,
ou Lucifer, ou enfin ce genre de choses là, tu vois. Et du coup, moi, ce que j'imagine, c'est que chaque épisode nous emmènerait dans une timeline, peut-être avec à chaque fois un Loki différent. Moi, je trouverais ça très sympa. Sachant qu'il n'y a que 6 épisodes, donc ça peut aller relativement vite aussi. Hein. Mais j'espère que ça sera, on va dire, varié, en fait, en termes de voyage. J'espère que ça sera varié. J'espère qu'on reverra la TVA de l'intérieur avec un peu plus sur ce qui se passe à l'intérieur aussi. J'ai un peu peur que ça soit maintenant, maintenant qu'on a vu ce qui était, ce que c'était, maintenant que ça soit que à l'extérieur, j'ai un petit peu peur de ça. Mais voilà, ouais, je vois.
Au niveau production, s'ils ont construit les décors, c'est pas trop trop dur de les réutiliser. Et alors que si tu fais des extérieurs, ça coûte un peu plus cher. Donc peut-être qu'on va pas avoir que des extérieurs, mais qui sait, on sait pas. Pas des extérieurs ou d'autres choses. Écoutez, on va peut-être arriver à la conclusion. Très enthousiaste, moi, pour la suite de la série. Surtout qu'on a vu dans certains trailers des images qui m'intriguent. J'ai pas vu beaucoup de trailers, mais il y en a eu une ou deux qui m'ont beaucoup intrigué. Donc, je suis très curieux de voir ce qui se passe dans la suite de la série. Et puis, c'est seulement encore 5 épisodes. Donc, enfin, on croit, hein. Peut-être qu'il faudrait vérifier. Loki, Disney Plus number of episodes. Est-ce qu'on a une réponse ? Tac, tac, tac. Ah bah, pour le moment, on n'en a qu'un. Donc oui, je savais qu'on en avait qu'un. Merci, c'est très gentil. Épisode, bon bah, je n'arrive pas à trouver immédiatement. Je suis sûr qu'on aura l'information pour le prochain. D'accord, et bah écoute, je pense qu'on arrive au bout. Merci de m'avoir accompagné pour cette discussion. Ouais, on verra si on peut faire vendredi prochain le prochain épisode. On essayera. Et puis sinon, ça sera relativement vite après. Mais dans tous les cas, on est très heureux de vous retrouver. Johan, si on veut te retrouver encore plus, où est-ce qu'on peut aller ? Qu'est-ce qu'on peut regarder ?
Alors, on peut venir sur Twitter, sur JohanT _. Et partagez avec moi le bonheur de Elden Ring, le bonheur de l'E3. Parce qu'en ce moment, je pense qu'il y a un peu que ça dans mon esprit. Un petit peu de Loki, si. Mais n'hésitez pas à venir me parler de Loki. Hein. Ou sinon, du coup, sur effectivement le Discord, ton Discord, hein, Patrick, le Discord du Rendez-vous Tech, où il y a une section accessible à tous pour discuter du dernier épisode de Super Laser Punch.
Tout à fait. Et je confirme que c'est 6 épisodes au total. J'ai réussi à trouver l'info. Notre honneur est sauf. Donc, sur le Discord, vous pouvez y accéder en allant sur notepatrick.com pour parler du dernier épisode de Super Laser Punch notamment, mais pas que. Et puis, vous pouvez retrouver tout ce que je fais sur notepatrick.com aussi, des liens vers les podcasts que je produis, y compris le rendez-vous tech où on parle de tech, de l'actu tech toutes les semaines, où on résume tout ce qui s'y passe. Et en ce moment, c'est encore plus important, le rendez-vous jeu où on parle de l'actu gaming toutes les semaines. On a eu un épisode où on a détaillé Ratchet & Clank Rift Apart et plein de trailers super cool de petits indés qui ont présenté des choses vraiment intéressantes qui ont été donc détaillées dans le dernier épisode du Rendez-vous Jeu avant la grosse explosion de l'E3 avec les gros gros morceaux qu'on détaillera la semaine prochaine. On est en plus sur Twitch, twitch.tv/notepatrick pour les enregistrements le mardi et jeudi à midi. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là aussi. Et comme je le disais, tous les liens sont sur notepatrick.com. Merci Johan d'avoir été avec moi. Et puis je te dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Ciao, ciao.